Donc, merci à tous trois pour ces trois interventions très différentes et de couleurs tout à fait personnelles et individuelles, quoique portées par une culture forte, j'imagine. Petite réponse à Boyan, les musiciens turcs, les musiciens tziganes turcs de musique populaire en général connaissent les makams, les musiciens macédoniens ou bulgares n'en connaissent pas le nom en général. Et en Grèce aussi, en Turquie et en Grèce, oui, c'est ça. Voilà, c'était juste une... Ça dépend des origines géographiques. Ah, excuse-moi. Voilà. Donc voilà, je vais renoncer à la vidéo que je voulais passer tout à l'heure. Je dis ça pour peut-être que je trouverai 3 minutes dans la journée pour la passer parce qu'elle peut être une très bonne introduction à la dernière table ronde aussi parce que c'est une très bonne illustration de l'improvisation et de son public. Quel public pour l'improvisation. Donc je vous laisse la parole, un micro va circuler dans la salle, Marine va vous présenter le micro, vous pouvez poser des questions et c'est gentil que vous vous présentiez juste auparavant. Merci. Pas une seule question encore, c'est parce que vous êtes timide. On va manger dans 5 minutes, vous avez encore... Ah, voilà, Florian.
Bonjour, Florian Baron, musicien. Voilà, alors, moi j'ai été assez intéressé par justement la notion que vous avez évoquée sur la spiritualité en musique, sur le sentiment globalement, parce que là j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé du mental, de ce qui se passe dans la tête et de ce qui ne se passe pas forcément dans la tête justement des improvisateurs, des questions théoriques qui se posent ou qui ne se posent pas. Mais ouais, moi j'ai l'impression que justement dans l'improvisation il y a une grande part de sentiments et donc j'aurais bien aimé avoir par exemple le point de vue de Boyan et puis même de Laurent aussi ce rapport que les musiciens peuvent avoir avec le sentiment. Que ce soit spirituel ou juste émotif, en fait, le rapport à l'émotion, qui, à mon avis, est primordial justement dans cette notion d'improvisation-là. Voilà.
C'est une très bonne question. Donc, je pense que on commence par se faire plaisir parce qu'on a entendu la musique et puis ça nous a fait des choses, n'est-ce pas ? Ça produit des effets sur nous-mêmes si on se retrouve dans la situation de jouer d'un instrument. Donc au début, on s'est fait plaisir en essayant de reproduire les choses qu'on a entendues. Puis ce n'est qu'après qu'on devient conscient de l'effet que la musique qu'on peut jouer fait aux autres. Alors, je suis encore très loin de l'idée de la poésie et des connexions de la musique avec tous les autres manières de s'exprimer artistique de l'homme. Mais définitivement, c'est par là que va l'évolution. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et de mes souvenirs, comment j'ai commencé, et pas que moi, comme j'enseigne, je l'observe aussi chez des jeunes musiciens. Donc, des questions comme celle-ci sont bien évidemment des questions qu'on commence à se poser au moment où on découvre la dimension spirituelle de la musique, parce que je suis tout à fait d'accord qu'on ne peut pas expliquer les sensations et les émotions qu'on peut ressentir en faisant ou en écoutant la musique. Par la physique, n'est-ce pas, par la vibration de trucs, et puis ça fait ici, bzz, 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 et ben je fais, ah, ça me fait des choses. Donc il y a toute cette autre dimension qui est plus que présente, c'est évidente, mais je pense que c'est quelque chose dont on devient conscient plutôt après. Laurent ?
Et moi, pour répondre vite fait, ouais, dans le cadre des musiques que je présentais, normalement, dès que les musiciens improvisent, c'est là que ça se passe, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment le moment dans ces musiques-là de chauffe pour le public. Voilà. Donc, si c'est une improvisation lente ou pour la danse, il y a une partie du public et des danseurs qui attendent que ce moment, quoi. Donc, quand c'est le cas de la clarinette qui joue, et pour eux, c'est le top de l'émotion. On peut voir sur les vidéos sur Internet, c'est marqué "Regardez comment ce clarinettiste fait pleurer sa clarinette." Voilà. Il y en a plein des vidéos comme ça qui arrivent en lien. Enfin, il y a toute cette notion soit de pleurer, d'émotion ou de chauffe aussi, quoi. Très, très important. Voilà.
Bonjour, Joanie Curté, je suis ethnomusicologue et j'ai travaillé pendant pas mal d'années sur une technique qu'on appelle le homi en Mongolie, qu'on appelle chant diphonique en langue française. Et j'avais une question particulièrement destinée à Shadi Fati, justement sur le au moment de la reproduction du modèle du maître dans la technique, cette capacité justement à rentrer en fait dans un paysage, enfin dans un espace en fait qui était celui du hammam et de cette lumière à travers la vapeur, etc. Moi, j'ai remarqué des choses en fait dans la tradition mongole en fait où dans l'art du chant diphonique, on apprend d'abord à improviser, à imiter les sons de la nature. Et en fait, on devient un bon diphoneur. Je vous explique ça pour illustrer la question que je vais vous poser ensuite. On devient un bon diphoneur en fait quand on a acquis une capacité à faire évoquer un paysage. Et ça, c'est arrivé. Même moi, quand je diphone à quelqu'un, un ami mongol, il dit « Ah bah tiens, là, ce que t'as fait, ça, ton improvisation, ça m'a fait rappeler les cascades de ma région » ou voilà, des choses comme ça. Et ça, ça se retranscrit beaucoup, pas forcément dans la forme mélodique et la technicité, mais beaucoup plus dans le timbre de la voix, en fait. Et je me demandais, en fait, dans ce que vous évoquiez, que vous reproduisez ce que le maître a transmis, même si techniquement c'est irréprochable, tout d'un coup, il y a eu ce déclic avec cet espace qu'il a décrit, en rejouant, peut-être que vous êtes rentré dedans, et en fait, juste à l'écoute. Alors, est-ce que c'est l'écoute du timbre uniquement ou voilà, il a dit oui, c'est ça. Et je me demandais en fait quel lien il pouvait y avoir. Alors, c'est peut-être dans d'autres types de musique, les autres intervenants pourront peut-être dire s'ils le ressentent, mais dans ce rapport entre l'espace, le timbre en fait, au-delà de la technique, et puis du coup cette transmission en fait de ce lieu, en fait de cette émotion.
Je pense que dans la transmission de n'importe quel genre de musique, c'est important d'avoir aussi les codes communs, parce que justement quand il y a un paysage à évoquer, c'est évoqué parce que moi j'étais devant mon maître, tous les deux iraniens, il me connaissait depuis longtemps, j'étais un peu évoluée aussi devant lui, on va dire, au fil des années, donc il savait les codes imaginaire en tout cas qu'il me donnait, ça allait me parler. Les mêmes choses, moi si aujourd'hui je décide de par exemple ouvrir une classe de par exemple musique classique iranienne, c'est tout à fait possible que je ne connaisse pas les mêmes codes qui parlent, c'est-à-dire qui se traduisent différemment dans l'esprit de l'élève ou de la personne qui est en train d'apprendre ça. Donc moi, mes premiers freins au début, depuis 11 ans que je suis en France, donc c'était ça, le moment où je jouais et que je savais pas, je savais très bien que non, mais c'était pas ça, il fallait autre chose. J'étais en manque des codes communs parce que je savais que si j'explique par exemple à un moment donné les mêmes images, le même image que mon maître m'expliquait, ça allait absolument pas parler et à un pot de vin par exemple. Donc j'ai senti mes limites, pas dans les notes et ni dans la théorie, mais dans l'image que j'allais de retrouver. Moi, c'est pour ça que moi j'ai fait une pause quand j'ai commencé à enseigner un petit peu au départ, quand je suis arrivée en France, j'ai fait une pause parce que moi j'étais limitée dans ces codes pour l'image, en fait pour aller loin dans le côté justement qui n'est pas écrit, qu'on peut pas le transmettre en fait par écrit ou même par un enregistreur. Donc, je pense que cet aspect-là, c'est assez culturel. C'est comme vraiment comme des blagues. On peut raconter une blague en français, tout le monde peut mourir de rire. Moi, encore après 11 ans, il y a des moments où je me dis, oui. Bon. c'est pareil, on rigole avec d'autres choses en Iran qu'ici. C'est peut-être si on traduit une blague iranienne, peut-être que ça fait rigoler strictement en personne. Donc, les mêmes codes pour transmission, c'est pareil. On en a besoin et ça ouvre l'espace où la liberté se situe aussi et se définit aussi. Et puis après, peut-être que lui, avec le maître, avec les années qu'il a derrière lui, il va encore plus loin que ça. Mais en tout cas, c'est aussi, ça fait partie de l'apprentissage. C'est pour ça qu'acheter un livre de Radif de musique classique persane et commencer à apprendre la musique classique persane comme ça en autodidacte avec un livre, c'est extrêmement illimité parce qu'on n'a pas toutes ces histoires à côté qui finalement aident énormément, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à...
Oui, et ça marche. En fait, ce n'est pas exactement une question. C'est plus, en tout cas, une question que je me pose à moi-même. Et j'ai l'impression que je ne suis pas la seule, en fait, à entendre Florian. C'est des réflexions que je me fais depuis assez longtemps par rapport à cette notion de liberté, de spiritualité et de code. Il me semble que, comme tu l'as bien décrit, tu nous as expliqué d'une manière très, très précise comment tu as appris, comment fonctionne la musique. Et tu nous as en même temps beaucoup parlé de liberté. Et que, en fait, tout ça, c'est rien. De toute façon, tout ça, c'est rien du tout. C'est la seule chose qui est importante, c'est la musique. Et Boyan nous l'a dit aussi. Et pour faire de la musique, il faut être libre. C'est le seul moyen. Et moi, je rattache ça à quelque chose. C'est peut-être parce que je pense à la conversation qu'on aura peut-être tout à l'heure. Moi, dans la notion de liberté, je mets bien sûr beaucoup de spiritualité, mais je mets en tout cas beaucoup de politique aussi là-dedans. Et il me semble, c'est un sentiment que j'ai, c'est que le seul moment où on fait de la belle musique, c'est le moment où on est libre. Et pour être libre, il faut être complètement détaché de beaucoup de choses qui ont à voir avec des chaînes personnelles. Et donc c'est vrai pour l'improvisation libre, par exemple, où il n'y aurait pas de code, il n'y aurait pas de code surtout rattaché à un territoire. Parce que c'est des choses qui me questionnent énormément, d'autant plus depuis que je vis en Bretagne. C'est... la légitimité à jouer de la musique qui n'est pas rattachée à un territoire, à des codes très précis, etc. En tant que musicienne de jazz, précisément, je suis à cet endroit-là et je ressens exactement la même chose, la même préoccupation, mais avec des notions peut-être plus politiques et plus psychanalytiques, même, je dirais.
Alors, je vais juste rajouter quelque chose à parce que la liberté, la définition de la liberté, parce que peut-être on peut partir de la définition aussi des limites, parce que du coup on va après on va voir aussi. Pour moi, c'est comme moi à chaque fois quand le soleil tape, je sens que le soleil est vraiment présent quand je vois comment l'ombre est dessinée. Quand mon ombre est vraiment dessinée, je me dis, ah ben là, vraiment, c'est vraiment ensoleillé. Donc, quand je parle de la liberté et la contrainte, et quand on sait les contraintes, quand on improvise, si je parle théoriquement, avec 5 notes, avec un tétracorde, on sait que c'est ça sera la contrainte. À partir de là, l'espace de liberté se définit aussi, parce que de toute façon, on sait qu'on n'ira pas là, mais toutes les dimensions ne sont pas fermées et bloquées. Donc après, il y en a aussi, ça veut dire qu'on a aussi des très grands improvisateurs, les très grands maîtres, qui savent partir de l'espace où justement on n'est pas fermé, il n'y a pas de contraintes, et il y en a que non. Donc tous les improvisateurs ne sont pas les meilleurs improvisateurs, comme on dit, il y a la sauce qui monte ou ça ne monte pas. Et il y a une chose aussi que je rejoins par rapport à l'idée de politique. Je ne sais pas si vous connaissez le cinéma iranien. Le cinéma iranien après la révolution. Après la révolution, il s'est passé beaucoup de choses très difficiles. Pour ma génération, moi j'ai 38-39 ans, on a eu une révolution et une guerre. Et puis l'embargo depuis 30 ans. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour une génération. Mais il se passe beaucoup de choses si vous suivez un petit peu l'art iranien, un petit peu. Et par exemple, pour le cinéma, avant la révolution, on partait vers une liberté d'image et de beaucoup de choses. On copiait pas mal aussi tout ce qui se passait en Occident, donc on pouvait aussi casser beaucoup de codes au niveau des images. Après la révolution, ils ont vraiment donné tellement de règles que limite, on pouvait presque rien faire. Ce qui s'est passé, si vous connaissez par exemple le cinéma de Kiarostami, par exemple, à post-Kiarostami, c'est rempli de métaphores. Parce que les métaphores, c'est un non-dit qui dit beaucoup de choses. Donc, c'est sûr qu'il y a une lecture, on va dire, occidentale, française, par exemple, quand vous regardez les films de Kiarostami, mais il y a aussi une lecture qui satisfait énormément le public iranien, parce que tout de suite, on voit une pomme qui commence à rouler de là. Il y a dans quelques films de Kiarostami, il y a des images qu'on peut se demander, mais pourquoi ils l'ont gardé? En fait, ça signifie quoi exactement? Mais c'est tout un code, tout un métaphore, et justement, c'est l'endroit où la liberté à l'iranien, dans la culture iranienne, se situe.
Merci. On va continuer cette conversation après quelques minutes, peut-être d'une manière plus informelle, au bar, au restaurant, et on va laisser la parole à un autre iranien, à sa cornemuse, Saïd. Merci à lui, et merci à vous. Et merci à vous.